Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, bienvenue dans la Grande Tchatche, le ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Coppola, vice-président du conseil régional, conseiller municipal de Marseille et tête de liste Front de Gauche pour les municipales en mars prochain. Bonjour Jean-Marc Coppola.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Michel Guéroux. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc Coppola a une tradition dans cette émission que vous connaissez déjà. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
Bienvenue chez les bonnets rouges. Pas ceux qui manifestent en Bretagne avec leur patron pour la liberté sans écotaxe de faire circuler de flamboyants poids lourds. Pas ceux qui se révoltent pour continuer à produire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Bienvenue chez les ravis de la crèche. C'est une tradition, tous les 7 ans, pour fêter Noël dans cette émission, on invite Jean-Marc Coppola à une grande tchatche. La dernière fois, c'était en décembre 2006. Vous étiez déjà vice-président de la région, vous l'êtes encore, mais vous avez troqué les transports pour les lycées. Vous étiez secrétaire de la Fédération communiste des Bouches-du-Rhône, vous avez passé le relais, mais êtes toujours au PCF, vous siégez même à la coordination nationale du parti. Rappelons très rapidement, pour les petits nouveaux, votre parcours. Vous prenez le train du militantisme à 23 ans en 83 en adhérant à la CGT Cheminots à Marseille. Vous rejoignez l'année suivante le PCF. Après les grandes grèves contre la réforme des retraites en 95, on vous propose de succéder à Bernard Thibault pour diriger la Fédé des Cheminots. Mais Paris, très peu pour vous. Vous préférez la voie de l'engagement politique. Conseiller régional, conseiller municipal à Marseille, vous êtes désormais l'une des personnalités locales du Front de Gauche. Lors des dernières élections régionales en 2010, vous êtes tête de liste en PACA de la coalition de la gauche antilibérale, 6%. Lors des dernières législatives en 2012, vous êtes candidat dans la Circo des quartiers nord marseillais, la 7e, 11,6%. Vous voilà maintenant tête de liste Front de Gauche pour les municipales à Marseille en mars prochain, entre 7 et 9% selon les premiers sondages. La campagne débute à peine, le programme, les listes et les alliances au premier et au deuxième tour sont encore en chantier. Rendez-vous en mars donc, et dans 7 ans, en décembre, pour faire le point dans une nouvelle émission.
Jean-Marc Coppola, une réaction à ce portrait à la sauce ravie. Difficile de renouveler, hein, parce que c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit, tous les 7 ans, comme disait Michel.
Ben, j'espère que vous m'inviterez peut-être un peu plus tôt, la prochaine fois. Et peut-être que dans 7 ans, je ne ferai plus de politique.
Alors Jean-Marc Coppola, un petit peu de national, et comme au Ravi, on a même l'ambition de devenir un jour, pourquoi pas, international. Il y a des manifestations monstres en ce moment en Ukraine pour sortir du giron russe et adhérer à l'Europe. Vous comprenez? Vous soutenez un peu ce mouvement?
Je
rappelle que vous êtes communiste, hein, l'Ukraine ancienne...
J'allais dire, aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est pas tellement de savoir si un autre pays va rejoindre l'Union européenne, mais plutôt de savoir qu'est-ce que c'est que cette Union européenne, où nous avons peu de choses communes avec les pays voisins, et c'est perçu surtout par, en tout cas, nos concitoyens français comme une technostructure...
Restons sur le cas de l'Ukraine, les manifestations, vous les comprenez, vous les soutenenez, ou vous vous dites... Il se leurre finalement
Non, je ne suis pas par principe pour soutenir toutes les manifestations, si c'est contre l'intérêt général, si c'est contre des valeurs que je défends en matière de démocratie, de valeurs de l'humain. Non, je ne défends pas, je ne fais pas tout à tout craint.
Donc vous ne soutenez pas les camarades ukrainiens?
Non, pas forcément, mais vous savez, le Parti communiste français est assez singulier et je ne vois pas de similitude forcément avec les partis communistes qui existent aujourd'hui dans le monde.
Il y a quand même pas un aspect un peu douloureux de voir que un peuple comme ça, anciennement communiste, finalement, il n'y a que fait rêver cette Europe-là, cette Europe libérale. Ça veut dire que ce qui reste du communisme tel qu'il a été pratiqué dans les pays de l'Est... est un repoussoir au point de faire paraître cette Europe-là comme un Eldorado?
Bon, vous savez, même si les critiques elles ont été tardives, je crois que effectivement, n'avions pas grand-chose à voir avec certains partis communistes, ou en tout cas le socialisme tel qu'il a été mis en œuvre dans l'ex-URSS, ou tel qu'on peut le voir aujourd'hui avec le Parti communiste chinois ou coréen, etc. Donc je crois que là-dessus... Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le combat contre le libéralisme, contre le capitalisme, comment sortir de là, comment le dépasser et comment surtout lutter contre la domination d'une chose qui peut paraître, j'allais dire, intouchable, etc. Mais derrière, il y a des femmes et des hommes, c'est-à-dire la finance, la domination de la finance dans le monde et donc du capitalisme.
Oui. On reviendra là-dessus. Restons quand même sur ce sujet-là. Le président de la République a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Sotchi pour la cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver. Quelles sont les bonnes raisons, selon vous, d'y aller ou de ne pas y aller ?
À Sotchi ?
Oui.
Bon, vous savez, là, pour le coup, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il prend une bonne position. Mais je serais tenté aussi de dire qu'il ferait bien de regarder quand même ce qui se passe en France au niveau des crises sociales, pas simplement économiques, des fractures qui existent, plutôt que de, j'allais dire, d'être très très présent sur la scène internationale, que ce soit avec les aventures militaires au Mali ou en Centrafrique, ou à soutenir ou ne pas soutenir, en l'occurrence, là, l'Ukraine pour l'entrée dans l'Union européenne. Mais je pense que en tant que président de la République, même si effectivement, une de ses missions, c'est l'international, c'est quand même de regarder dans son pays comment résorber la fracture sociale, comment mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu en termes de changement, de vrai changement politique, et d'incarner les idéaux et les valeurs de la gauche, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant.
Jean-Luc Mélenchon a dit « la gauche ne gouverne pas en France ». Il a raison, selon vous ?
Ah oui, je veux dire, de gauche, le gouvernement et le président de la République n'ont que le nom. Je le répète, il y a des valeurs, il y a des idéaux qui sont de gauche et qui, malheureusement, ne transpirent pas dans les politiques qui ont été menées. Mais il a abdiqué, j'allais dire, dès son élection, puisqu'il a abdiqué avec l'Allemagne, il a abdiqué devant les banques. Or, si là, dans ces cas-là, il ne montre pas le pouvoir du politique, le pouvoir de la politique en disant ben, moi, j'ai été élu pour un vrai changement, pour répondre aux aspirations du peuple français, d'autant qu'il avait une majorité qui pouvait le soutenir, parce que ça soit compliqué, que des réformes, que des lois soient parfois difficiles à affronter. Bon, il ne l'a pas fait. Je considère qu'effectivement, se couchant devant les banques et devant surtout ben, le grand patronat, hein, je ne confonds pas tout, devant le MEDEF, eh ben, il a abdiqué, il poursuit ce que faisait, alors peut-être avec un petit peu plus de modération, ce que faisait malheureusement son prédécesseur. Il n'a pas été élu pour ça. Mmh. Or, il a tenu de grands discours, de volonté de changement. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'il discrédite la politique, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il est en train de donner l'image que la politique ne peut rien, alors que c'est faux, mais à condition de s'appuyer sur le peuple. Et c'est là qu'effectivement, on a des conceptions de la politique qui peuvent être différentes.
Toujours sur l'actualité, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon que nous citons. La formation du gouvernement de coalition en Allemagne, c'est récent. Je cite la phrase de Jean-Luc Mélenchon. De Merkel à Hollande, c'est la ligne directe. En France, comme en Allemagne, les sociodémocrates sont la camisole de force des peuples. Ce monde-là n'est pas le nôtre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de phrases qui sont quand même assez radicales ?
Oh, vous savez que bon, le verbiage de Jean-Luc Mélenchon vise à utiliser pleinement d'ailleurs une société qui est une société de communication et donc pour attirer un peu les médias, pour essayer de se faire entendre.
On n'est pas loin du populisme
il
quand
a
même,
parfois, oui, moi je ne le cache pas, oui, le populisme c'est complètement ça. Le populisme c'est pas du tout ma conception de la politique, il faut faire très attention à cela et c'est la raison pour laquelle moi je parle de démocratie, d'intervention citoyenne, mais si c'est pour tomber dans le populisme, oui, on a quelques différences, bien sûr, sur les pratiques. Et je crois qu'il ne faut pas leurrer les gens. Au contraire, les gens sont intelligents. Il faut leur donner les éléments d'information et puis de décision. Oui, sur le populisme, on pourrait développer, on pourrait avoir tout un débat.
Toujours sur le populisme et le mécontentement, il y a eu récemment le rapport sur l'intégration qu'on a pu voir sur le site du Premier ministre, qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous comprenez l'émotion qu'il a provoquée, notamment le point autour du voile ? Là, on a pu entendre les extrêmes qui se sont déchaîné là-dessus. Vous comprenez, vous, cette peur ?
Oui, ben, je crois que, enfin, en tout cas, c'est un peu la méthode du gouvernement. Il le fait sur beaucoup de sujets comme ça. Il commande un rapport, et puis ce rapport est instrumentalisé quand même par la droite, par l'UMP et Copé. Et voyant cela, il recule au lieu d'affronter un
le
certain nombre de questions.
Le contenu de ce rapport vous a choqué, vous ?
Non, je pense qu'il pose de bonnes questions. Oui, si on veut réformer de nouveau, si on veut de nouvelles lois, pourquoi ne pas...
Le voile
regarder...
à l'école, c'est pas quelque chose qui vous choque, qui,
si,
c'est pas un répulsif.
Si, si, le voile à l'école, ça me choque, mais je crois que... Vous savez, à l'époque, moi je l'ai vécu de très près ici, à Marseille, il y a des enseignants, la communauté éducative, des proviseurs qui avaient fait un travail extraordinaire en direction des jeunes, et ils avaient gagné à ce qu'il n'y ait pas de signe ostentatoire, effectivement, à l'école, l'école de la République, l'école laïque, et donc ils avaient gagné ça par la compréhension. Quand il y a eu le débat sur cette loi sur le voile, eh bien, bizarrement, tous ces mois et toutes ces années de travail ont été foutus en l'air. Et effectivement, il y avait des filles qui revenaient avec le voile jusqu'à l'entrée, bien entendu, pour l'enlever. Donc, je crois que les lois ne règlent pas tout. Il y a besoin aussi, d'ailleurs, en France, c'est caractéristique.
Vous comprenez quand même quand votre électorat, certains disent que l'électorat des communistes, enfin, se partage entre le Front National et les communistes, justement.
Non, c'est pas vrai ça.
Cet électorat qui a peur aujourd'hui, le Front National est un parti quasi ouvrier.
Non, mais il faut faire attention à ces clichés parce que d'abord, si vous regardez vous verrez que les vases communicants se font entre la droite et l'extrême droite. Regardez Marseille, par exemple. Vous regardez les résultats du Front National en 2008. Les points ont été complètement aspirés par l'UMP. C'était un an après donc l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est des clichés. Vous trouverez bien sûr des travailleurs, des salariés qui se font berner par un discours comme ça. Mais après, il faut juger aux actes, il faut juger au programme, il faut juger aux actes. Je vais vous en citer un d'actes, puisque certains disent « Oui, mais après tout, on a tout essayé. » Non, on n'a pas tout essayé. Puis, parfois, on peut avoir des résultats quand ils ont géré Toulon, Vitrolles, Marignane, etc. Mais lors de la séance plénière du Conseil régional, il y a 8-10 jours de cela, je présente d'ailleurs l'ouverture des équipements sportifs des lycées aux associations et clubs dans les quartiers défavorisés, dans les cités populaires, etc. Le Front National, non seulement a voté contre, mais en plus, a eu un discours raciste à l'égard des pauvres, à l'égard des jeunes, etc. Bon, tant qu'on ne démasquera pas politiquement cela, et tant qu'on restera sur un discours moraliste, on ne démontrera pas effectivement ce qu'est le Front National, qui peut apparaître comme une alternative, mais qui n'en est absolument pas. Oui. Ils sont aussi corrompus que d'autres. Et là aussi, je peux amener un certain nombre de preuves. Ils ont les mêmes pratiques que d'autres. Et c'est tout ce qu'ils critiquent. Ils le font, donc c'est vraiment pas l'alternative.
Michel
Ils sont
Guéraud.
En plus dangereux.
On va revenir à Marseille et au FN éventuellement dans un deuxième temps. Un point quand même sur la situation du mouvement social et un ou deux dossiers au plan national, mais qui vont nous amener au local. La réforme des retraites qui vient d'être adoptée, il y a eu une mobilisation sociale, mais finalement qui n'a pas eu son effet. Cette réforme est adoptée. On a l'impression qu'une fois de plus, il se vérifie que quand la gauche est au pouvoir, quelle que soit la gauche dont on parle, le mouvement social a du mal à se faire entendre. Et puis, le mouvement politique que vous incarnez aussi, cette réforme est passée.
Je rappelle pour les auditeurs que la réforme des retraites allonge la durée de cotisation et crée un compte de pénibilité. Je rappelle également que le Front de gauche a voté contre avec l'UMP et l'UDI.
Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Eh oui, parce que de dire on a voté contre de la même façon qu'eux, pas pour les mêmes raisons. Pour la droite et l'UDI, ça n'allait pas assez loin. Il n'y a qu'à voir les réformes de 1993 de Balladur, de 2004 et de 2010. Pour nous, c'est parce que c'est encore une réforme de régression sociale. Donc on ne va pas voter pour parce que la droite vote contre. C'est une réforme de régression sociale. Nous y sommes opposés. Et cette réforme est dans la même lignée que les réformes qui ont allongé la retraite, la, 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 enfin, la, la, la durée de cotisation et donc éloigner l'âge de la retraite. Et donc, on ne peut pas être d'accord avec cela parce qu'on est dans un pays...
Je rappelle qu'elle ne touche pas à l'âge légal de départ en retraite.
Mais si, puisque j'allais dire, c'est de faux arguments. Quand vous augmentez la durée de cotisation, forcément, surtout maintenant que des jeunes commencent à rentrer dans la vie active et de cotiser à partir de 23, 25, 27 ans, etc. De fait, ils partent à 65, 67 ans. Donc c'est une réforme de régression sociale. C'est non-sens par rapport au sens de l'histoire, alors qu'il n'y a jamais eu autant de richesses créées dans notre pays. Donc on ne va pas être
d'accord. Elle rapporte 7 milliards au gouvernement. Il en attendait 20, elle en rapporte 7.
Mais la vraie réforme qu'il faudrait, c'est effectivement qu'il y ait une justice fiscale et qu'on s'en prenne véritablement, j'allais dire, aux moyens, aux profits qui existent pour que ça puisse bénéficier d'abord, je le répète, une justice sociale et puis que ça puisse bénéficier à l'être humain. Alors là, on a encore berné.
Mais revenons... Pourquoi les gens ne sont pas mobilisés? Pourquoi
je voulais revenir sur la mobilisation.
Ça passe avec le PS au pouvoir et ça passe moins bien quand l'UMP
C'est la démonstration de ce que je disais
tout à l'heure. Pourquoi vous n'êtes pas audible? Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser?
C'est la démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Quand François Hollande a été élu et qu'il ne met pas en œuvre une politique pour laquelle il a été élu, il alimente ce que j'appelle, moi, la pédagogie du renoncement. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui se détournent de la politique parce que, plus que d'aller au Front National, ces gens-là qui ne croient plus en la politique parce qu'ils se sentent trahis, ils se sentent bernés, ils s'abstiennent. Et bien sûr, ils laissent faire ceux qui gouvernent aujourd'hui. Donc c'est le renoncement. Cette pédagogie de renoncement, entraîne des difficultés de mobilisation. Et effectivement, dans le paysage politique, nous n'apparaissons pas comme une alternative crédible.
Deuxième exemple, la hausse de la TVA au 1er janvier.
Oui.
La TVA va être augmentée. Vous avez le Front de Gauche fait organiser une marche sur Bercy, alors entre 7 000 personnes selon la police, 100 000 selon les organisateurs, mais là aussi échec, donc mobilisation moins importante que celle qu'on a pu connaître auparavant.
Mais c'est pas fini.
Ça c'est sûr, c'est pas fini, mais enfin la réforme
passe. La réforme passe, et puis si certains n'ont pas mesuré encore la douleur que ça va être cet impôt injuste, eh bien ils vont le découvrir malheureusement.
Jean-Marc Coppola,
nous continuerons des initiatives justement jusqu'à des états généraux sur une justice fiscale, parce qu'il faudra bien qu'elle vienne. C'est pas la question justement des bonnets rouges qui fustigeaient toute fiscalité, parce que c'est dangereux de fustiger toute fiscalité. Qu'elle soit pas juste aujourd'hui, c'est une chose, mais que on abroge toute fiscalité, tout impôt, c'est un type de société, c'est-à-dire qu'une société très individualiste où on ne vit qu'en fonction de ses moyens.
Ben
c'est
là, ce que justement, l'on veut. La TVA,
Il y a des enquêtes qui montrent effectivement que les Français sont majoritairement attachés au modèle social français issu du Conseil national de la résistance sur la base de la solidarité, sur la base de l'égalité, sur la base de la justice sociale.
La hausse de la TVA, je rappelle aux auditeurs que c'est pour financer le crédit d'impôt compétitivité.
Des
pour alléger
encore,
le coût du travail.
Des cadeaux c'était, encore pour
c'était
les
pas
grandes
pertinent.
Entreprises.
C'était pas pertinent,
non,
ça ?
Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, c'était la TVA qu'avait inventé Sarkozy et la droite, qui remise au goût du jour, alors que c'est pas du tout ce qu'il fallait. Il faut avoir le courage d'une vraie réforme fiscale, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui, n'arrivent plus à vivre, à se loger, à manger même parfois. On est au 21e siècle, on est à la 5e puissance du monde. Donc, à un moment donné, il faut avoir le courage, effectivement, d'aller chercher les moyens là où ils sont.
Jean-Marc Coppola, Jospin au gouvernement, le Parti communiste est dans la majorité gouvernementale. Vous en tirez la conclusion que le Parti communiste n'a pas été audible, son image a souffert, on lui a reproché d'avoir accompagné une politique de régression sociale. Maintenant, Hollande au gouvernement, vous n'y êtes pas, et on a l'impression que le Parti communiste et le Front de Gauche ont, dans une autre position, autant de mal à convaincre, à se faire entendre et à relayer le malaise social.
Alors effectivement, ça peut être l'appréciation ou la perception qu'on en a aujourd'hui. On a un certain nombre d'échéances électorales qui confirmeront ou pas cet état de fait. Donc nous verrons bien. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confusion donc, avec ceux qui mènent une politique libérale. et que voilà, nous offrons justement une perspective qui est différente des autres. On verra aux municipales, on verra aux européennes, on verra dans d'autres échéances électorales si effectivement nous n'apparaissons pas comme une alternative crédible. Il faudra beaucoup de pédagogie, hein, il faudra continuer. Parce que un des points sur lesquels d'ailleurs nous travaillons, c'est que ce que nous proposons, qui n'est pas la lune, hein, qui est ce que augmenter les salaires, lutter contre le chômage, enfin bref, un certain nombre de propositions comme cela, les gens y adhèrent complètement. C'est eux qui le disent, c'est eux qui le proposent. La question sur laquelle on bloque et c'est l'obstacle qu'il va falloir, j'allais dire, sauter, c'est oui, c'est bien beau ça, mais est-ce que l'on peut ? C'est la question du possible. Eh bien, il faut qu'on fasse la démonstration. Alors, les gens commencent à le percevoir, d'ailleurs, grâce à vous, grâce aux médias, etc. Ils voient bien qu'il y a des masses colossales d'argent dans les banques, dans certaines entreprises du CAC 40, d'ailleurs, qui ne payent pas les mêmes impôts que les petites entreprises, etc. Et donc, il y a besoin de réformes pour remettre de la justice
fiscale là-dedans. Ils voient aussi qu'il y a des plans sociaux tous les mois.
Ils se disent, mais comment aller chercher cet argent ? Et quand vous avez aux manettes, aujourd'hui, du pouvoir le plus haut, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, qui n'ont pas le courage. Alors qu'y compris maintenant, des banquiers disent, mais les réformes que vous avez faites sur les banques, mais c'est de la gnognotte, ça va rien changer, etc., etc. Donc, il faut avoir le courage de cela. Ben, il faut avoir le courage, c'est-à-dire qu'il faut mettre aussi au pouvoir, il faut élire aussi des gens qui auront ce courage politique, mais pas tout seul. C'est là qu'intervient aussi les conditions dans lesquelles le peuple français, ou le peuple en général d'ailleurs, interviennent sur les choix politiques et ne se laisse plus guider par...
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau des choix stratégiques et de la lisibilité des choix stratégiques du front de gauche, coalition, dans laquelle le PC pèse lourd, mais n'est pas seul. Il y a le parti de gauche, il y a aussi d'autres mouvements qui sont regroupés d'ailleurs dans un ensemble qui s'appelle Ensemble. Il y a des stratégies qui diffèrent, y compris dans le temps là, dont on va parler, les municipales, par exemple à Paris, le choix... Pierre Laurent, d'aller avec la majorité socialiste dans certains combats au municipal, à Marseille, un choix inverse. Et est-ce que c'est possible de faire des choix aussi différents ? Et comment on peut à la fois utiliser des termes forts, comme vous avez utilisé en début d'émission à propos de Hollande et de son bilan, et aller ensemble dans des combats à l'échelon local ?
D'abord, je voudrais dire que quand même, il y a un certain nombre de fondamentaux qui nous rassemblent et sur lesquels, bon, il y a une base du Front de Gauche. Front de Gauche qui
commence à être de plus en plus tenu.
D'accord, mais la stratégie.
Le Front de Gauche, qui, je le rappelle, est quand même un mouvement récent. Hein, ça date de 2008. Un mouvement qui s'étend, puisqu'avec le Parti de la Gauche européenne, j'allais dire, on a des convergences avec un certain nombre de formations politiques à l'échelle européenne, parce que c'est aussi à cette échelle-là qu'il va falloir bouger les choses. Et donc, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Bien sûr, il y a après des différences, effectivement, mais le Front de Gauche est appelé à continuer de s'élargir, à travailler sur la base des propositions qu'il fait, des valeurs qu'il défend, une pratique de la politique aussi qu'il défend, avec y compris la 6e République.
Mais après, soyons concrets, pourquoi, par exemple, sur la stratégie, ce qu'on fait à Paris, on ne le fait pas à Marseille, inversement.
Je reviens, parce que si on fait l'économie de ce que je viens de dire sur ce qui nous rassemble, et puis après un certain nombre de différences, là, je vais vous dire très tranquillement que le Parti communiste, lui, en tout cas pour ce qu'il regarde, ça fait quelques années qu'il a abandonné le centralisme démocratique. Vous savez, cette décision prise au sommet au niveau de la direction du parti.
La verticalité du pouvoir, ouais, c'est fini.
Exactement. Et que la question de la souveraineté des adhérents, la souveraineté de ceux qui composent le Front de Gauche est essentielle. Et là, pour le coup, effectivement, on a fait jouer complètement la démocratie. La situation à Marseille n'est pas celle de Paris. Et donc, je ne vois pas pourquoi on appliquerait et d'un côté et de l'autre. On imposerait d'ailleurs une stratégie qui est différente. D'abord parce qu'à Paris, eh bien, les communistes sont sortants avec un bilan et puis donc peuvent continuer avec des formations comme le Parti Socialiste, comme Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs se démarquent eux-mêmes de leur propre parti, ou en tout cas du gouvernement et de la politique gouvernementale. Hein. Je parle d'Anne Hidalgo, de Marseille, où la situation est complètement différente. Et donc, c'est aux communistes et aux militantes du Front de Gauche de Marseille et de Paris de décider un peu les choses. Mais vouloir imposer partout la même chose,
c'est pas
forcément...
On a quand même vu que cette stratégie qu'avait utilisée le MoDem, à chaque ville sa vérité, à chaque situation une vérité, n'a pas tellement réussi au MoDem en termes de visibilité pour capitaliser les mécontentements ou même les voix aux élections. Vous êtes sur cette voie-là aujourd'hui ?
Mais pourquoi voulez-vous que dans des communes que nous gérons, par exemple, Je prends par exemple le département des Bouches-du-Rhône, avec des socialistes, avec des écologistes, etc. Et pourquoi les assimiler aux ministres, au gouvernement, au président de la République, dès lors qu'il y a de bonnes politiques? Et ce qui nous intéresse, nous,
je rappelle au Conseil général, il y a Mme Carlotti qui est ministre.
C'est de mettre en œuvre des politiques qui soient utiles aux gens. Et donc, ne confondons pas les élections. C'est une élection municipale, c'est une élection locale, où y compris les personnalités et les politiques locales sont, j'allais dire, sont ce qui doivent être
des choix. Alors, allons-y, Marseille, municipale, lors des dernières municipales, vous étiez allé directement dès le premier tour dans une alliance avec le Parti Socialiste. En mars, vous voulez y aller seul. Qu'est-ce qui a changé dans la situation politique locale qui fait que c'est plus possible aujourd'hui?
Le Front de Gauche. Le Front de Gauche existe. Le Front de Gauche avec une stratégie où d'ailleurs...
Et ça, c'est une logique nationale, ce n'est pas une logique locale.
C'est une logique nationale, mais à laquelle on adhère complètement et qui a fait la preuve, j'allais dire, non pas de son efficacité, mais en tout cas, on a tiré de cette expérience un certain nombre de conclusions.
Est-ce que les socialistes marseillais sont moins fréquentables que les socialistes parisiens, par exemple?
Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que ce sont des élections à deux tours. Lorsque dans ce pays, il y aura une 6e République où on réformera les institutions, la politique, le mode de scrutin, je rappelle que nous sommes pour la proportionnelle intégrale, donc un seul tour, et bien là nous verrons. Là, des stratégies à deux tours, ça veut dire qu'il y a un premier tour où on choisit et un second tour où on se rassemble pour éliminer un tel ou un tel. Donc la question qui nous est posée, c'est que oui, nous avons des propositions, un projet pour Marseille qui est différent de ce que proposent les socialistes ou de ce que proposent d'autres formations politiques. Et ça, au premier tour, on veut donner ce choix aux Marseillaises et aux Marseillais de pouvoir s'exprimer, d'autant qu'en plus, à Marseille, l'originalité, c'est qu'il y a une dose de proportionnelle et donc plus les Marseillais voteront pour le Front de Gauche, plus il y aura d'élus. Et donc, c'est ce que nous ambitionnons. Et c'est un projet que nous ne travaillons pas en vase clos. Depuis le début de l'année 2013, nous avons fait un certain nombre de forums, nous avons invité les Marseillaises et Marseillais à participer à cela et à dire leur opinion sur un certain nombre de choix, sur les questions d'emploi, sur les questions de logement, sur les questions de sécurité, sur les questions, bref, d'école. Et donc, nous avons constitué tout cela. Et aujourd'hui, on veut que ça se traduise par des listes, qui soient des listes de large rassemblement, parce que nous portons aussi une pratique de la politique, c'est-à-dire demain, au mois d'avril, nous sommes élus, pourquoi pas, mais je serai maire de Marseille, je mettrai en œuvre des espaces dans lesquels les citoyens non pas donneront simplement leur opinion, mais participeront à la co-construction d'un certain nombre de choix politiques pour Marseille. Ça sera différent, parce qu'il faut que les faits précèdent la loi, et je ne vais pas attendre 2017, un changement encore de président de la République, pour que les Marseillaises et les Marseillais aient la parole, et non seulement la parole, mais aient accès au pouvoir.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, avec nous Jean-Marc Coppola, Michel Guéraud.
La primaire, vous avez eu des mots assez durs, assez ironiques sur ce processus. C'est Patrick Mennucci qui est sorti du chapeau. Vous le regrettez, ce choix-là? Vous allez pouvoir
vous féliciter de ce choix?
Vous êtes indifférent?
Complètement.
Pourtant, vous allez être amené à discuter avec lui.
Ça a été leur méthode de choix pour les départager.
Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces primaires? C'est une méthode démocratique. On aurait pu voir la même chose au sein du Front de Gauche.
Non, ce n'est pas une méthode démocratique. C'est une conception de la démocratie.
Proposer plusieurs candidats et demander aux gens de voter, c'est plutôt démocratique.
Mais demander déjà pourquoi ils n'ont pas demandé à leurs adhérents de voter.
Mais c'était ouvert
puisque
à d'autres.
Puisque le choix justement de... Parce qu'on peut toujours se targuer de dire oui, il y a eu plusieurs milliers de Marseillaises et de Marseillais. Si on dit... C'est ouvert à tout le monde et qu'on s'aperçoit que... Combien c'était les résultats de participation de votants? C'est loin quand même de l'électorat marseillais, donc c'est un bide. Si on dit par contre par rapport au parti socialiste, ah oui, ça a dépassé toutes les espérances parce qu'il y a beaucoup plus de votants que d'adhérents, bien sûr on peut le prendre comme ça. Mais demander à des gens de toute sensibilité politique de participer pour se départager alors qu'ils sont pas capables de se départager entre eux alors qu'ils proposent exactement la même chose, j'appelle pas ça de la démocratie. Ça y est, ça j'appelle ça plutôt du démocratisme. Dites-moi ce que vous voulez, puis on fait. Non, il faut le faire sur des bases claires. Il faut donner tous les éléments de compréhension aux gens, et ne me dites pas surtout que les débats qui ont eu lieu, qui ont été très médiatisés, eh bien, ont permis d'avoir une claire idée de ce que propose le Parti Socialiste en termes de projets, de propositions, de valeurs. Moi, j'ai entendu beaucoup de « je ». Jamais de...
En même temps, c'est des primaires, c'est le principe d'une primaire.
Oui, d'accord, mais je sais que la politique passe par les hommes et les femmes. Mais quand est-ce qu'on dira le pouvoir au peuple et qu'on crée des conditions, justement, pour restituer le pouvoir au peuple? Vous savez, en conseil municipal, c'est peut-être symbolique, mais quand je vois Jean-Claude Gaudin trôner là au-dessus de tout le monde, comme si c'était si on était encore du temps de la royauté, de dire bon, de toute façon vous avez un temps de parole donc vous êtes obligé de parler, mais de toute façon je fais ce que je veux. Vous appelez ça de la démocratie au XXIe siècle, alors qu'il y a une crise profonde de la politique, une crise profonde de la démocratie? Mais à force de mépriser comme ça le peuple, vous allez voir que on peut aller vers des déconvenues, peut-être même dans les semaines ou les mois qui viennent, dont on aura du mal à se remettre, mais ce sera peut-être salutaire aussi pour que enfin on ait véritablement un renouveau en politique et qu'on n'aménage pas les choses à la marge. Qu'est-ce que c'est ce débat sur non-cumul de mandats, alors qu'il faudrait profondément changer les choses pour que, je ne sais pas, moi je suis pour le mandat unique, je suis pour qu'il n'y ait pas forcément de renouvellement de mandat, je suis pour un certain nombre de choses qui permettent à tout homme et toute femme de pouvoir faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, l'image qu'a la politique, elle est détestable.
Vous êtes pour le non-cumul des mandats?
Oui, je suis pour le non-cumul des mandats.
Et le non-renouvellement du mandat?
Je suis pour le non-cumul, le non-renouvellement. Il y a besoin.
Quand
de...
est-ce que vous allez vous l'appliquer? Michel Guéraud a dit tout à l'heure que vous étiez conseiller régional depuis 1998, je crois.
Oui, exact. Mais je ne suis conseiller municipal que depuis 2008. Et je ne me renouvellerai pas en 2015 au régional. C'est clair. Quelle que soit d'ailleurs la situation au niveau municipal.
On sent beaucoup de...
Vous me réinviterez pour voir si ce que je dis est fait. Mais vous pouvez me juger déjà sur un certain nombre d'actes, parce qu'il fallait du courage politique en 2010 pour partir en front de gauche au régional, alors que beaucoup nous riaient au nez. Et quand je faisais la proposition de la gratuité pour les transports, il y en a beaucoup qui nous ont ri au nez. En attendant, ça existe pour les jeunes de moins de 26 ans.
Michel ?
Contrairement à certaines tendances au sein du Front de Gauche, et plutôt du côté du Parti de Gauche, du côté de Mélenchon, où on dit les socialistes, parfois on entend dire, sont infréquentables et on ne doit pas les fréquenter, on ne doit pas faire de la co-gouvernance avec eux. Vous êtes-vous sur une ligne plus constructive, ou je me trompe? Vous siégez vous-même dans une majorité socialiste au conseil régional, et vous envisagez, dites-nous le contraire, mais je ne me trompe pas, je pense, de éventuellement co-gérer Marseille si jamais la gauche gagne et emporte face à Jean-Claude Gaudin. Donc comment on peut à la fois tenir un discours de radicalité comme vous le faites face au Parti Socialiste et dès maintenant vous projeter dans une alliance avec eux? Est-ce que c'est pas le sempiternel tiraillement du PC et le vôtre? Et comment vous faites avec ça? Et
non,
comment
mais,
vous faites entendre
mais,
avec ça?
Mais je comprends ce que vous dites et ce n'est pas du tout insultant de ma part, mais vous êtes sur des schémas qui sont du passé. Pourquoi des schémas du passé? Je vous ai dit qu'aujourd'hui...
Vous allez négocier avec Patrick Mennucci?
Non, je ne l'ai même pas rencontré. Aussi, on se croise dans des
initiatives. Vous le ferez au second tour, entre les deux tours.
Écoutez-moi. Dans un premier temps, nous présentons au premier tour. Et puis, en fonction du premier tour, nous verrons ce qu'il y a. Mais il y a des choses qui seront, que je peux dire dès maintenant. Je ne vais pas tromper quand même les électrices et les électeurs marseillais. Oui, au premier tour, les gens choisissent. Au second tour, on élimine. Est-ce qu'on veut en reprendre pour 6 ans avec la droite et peut-être même flanqué du Front National, alors que l'on voit depuis 18 ans, 19 ans l'année prochaine, ce qu'elle a fait dans cette ville en termes de fractures, d'inégalités, de recomposition sociale, de vente de tous les espaces publics au privé? Est-ce que l'on veut encore ça ou est-ce que l'on veut changer? Et la question du changement, elle se pose, oui, par certainement, mais en fonction des résultats aussi des uns et des autres, ce sera peut-être le Parti Socialiste qui se ralliera à nous, donc on verra bien. Mais non, mais tout le monde sourit, mais personne ne sait qu'on est au bord d'une fracture là et que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Personne ne le sait. Personne ne sait ce qui va se passer d'ici le 23 mars. Mais peut-être que je fantasme aussi. J'en sais rien. En tout cas, je sais la colère qu'il y a. Je sais le ras-le-bol qu'il y a, pas seulement à Marseille, mais aussi ailleurs. Et donc, nous verrons. Et la question de la cogestion est une autre question encore. Parce qu'on peut fusionner. Mais la question de la cogestion est encore une autre question. C'est-à-dire qu'on peut être dans une majorité, mais sans prendre de responsabilité. Donc vous voyez, il y a plusieurs hypothèses, mais ça dépendra
Malgré tout, vous dites qu'il vaut mieux Hollande que Sarkozy, il vaut mieux Mennucci
non,
que
non,
Gaudin.
Non. Là, vous êtes dans une bipolarisation où, comme beaucoup de médias, il y a Gaudin et Mennucci, et les autres, ils font de la figuration. Moi, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Si je suis chef de file du Front de Gauche, c'est pour demain être maire de Marseille. Mais être maire de Marseille pour avoir des
politiques qui soient utiles aux Marseillais pour résorber justement les fractures, les inégalités qui existent, pour répondre aux besoins, c'est-à-dire ne pas faire un casino, mais faire des équipements sportifs pour les gamins, des lieux culturels qui soient accessibles à tous, etc., etc., et qui est surtout des espaces où les citoyens, les Marseillais pourront intervenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc alors, vous dites qu'il ne faut pas parler de l'immobilisme de Jean-Claude Gaudin. Vous dites que c'est une erreur. Il n'est pas immobile.
Ah non, il a fait des choses. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait entre hôtel 5 étoiles, modernisation du stade Vélodrome. Maintenant, c'est le casino. Il a ouvert 4 tunnels routiers, dont des payants, etc. Mais il en a fait des choses. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accru les inégalités dans cette ville. Au lieu de voir une ville de vivre ensemble, il a accru les inégalités. Et tout, ou en tout cas beaucoup plus pour les privilégiés. Et il a... Aujourd'hui, on peut dire qu'à Marseille, la République... Eh bien, n'existe plus dans un certain nombre de quartiers. Mon ami Marcel Ruffaut dit Marseille est sortie de la République. Non, c'est la République qui n'est plus dans un certain nombre de quartiers. Et moi, je veux rétablir la République dans tous les quartiers. C'est-à-dire la question de l'égalité, de remettre des services publics dans les quartiers. Parfois, dans certains quartiers, le seul service public qui existe, c'est à l'école. Et puis, on veut faire jouer donc à l'école le pompier qui va tout régler, tous les maux de société, etc. C'est pas possible. Donc, il faut recréer du lien social. Il faut vraiment avoir la volonté politique de lutter contre la précarité, contre le chômage, contre les discriminations. Quand il y a des gamins qui sortent parfois diplômés et parce qu'ils s'appellent un tel ou parce qu'ils habitent ici, eh bien, ils ne trouvent pas d'emploi. Vous trouvez ça normal?
Ça, c'est quasiment un programme national. En même temps...
Mais c'est un programme local qu'on peut appliquer à Marseille. Vous savez, là, sur la question des logements, moi, ça ne sera pas un coup de peinture et une fausse porte blindée. Ça sera reconstruire des cités complètement.
Alors, je rappelle, on va y revenir là-dessus, il y a 40 000 personnes qui sont en attente d'un logement social à Marseille, donc il faut de la construction. Et vous, vous dites, il ne faut pas réhabiliter les cités, il faut les reconstruire.
Oui, j'ai dit que je ne m'en tiendrai pas simplement aux réhabilitations avec un coup de peinture et une fausse porte blindée. Je dis qu'il faut réhabiliter, mais véritablement réhabiliter avec une concertation avec les intéressés. Il faut construire et donc utiliser le foncier plutôt que de le donner aux espaces, à des grands groupes privés comme c'est le cas aujourd'hui pour faire des hôtels, 5 étoiles, pas des hôtels pour les jeunes ou
Temps, c'est des emplois qui sont créés, c'est des
non,
impôts
mais
qui sont
quels emplois enfin, j'ai été 6 ans responsable dans le tourisme, vous savez très bien que c'est éphémère, ça. De l'année prochaine, il n'y a plus l'initiative Marseille-Provence capitale européenne de la culture, qu'est-ce qu'on va avoir? C'était 2013, l'année où il fallait être à Marseille, etc.
Jean-Marc Opéra, donc, vous prophétisez pour l'année prochaine un marasme au niveau du tourisme?
Je prophétise rien du tout, je dis qu'il faut structurer des choses qui permettent, j'allais dire, à chacune et chacun de pouvoir vivre décemment, dignement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à Marseille, qu'on prenne la question du logement, qu'on prenne la question de l'éducation, qu'on prenne toutes les questions, je ne parle même pas des questions de déplacement, c'est abominable.
Alors on parlait de l'audience du PC au plan national, on peut en parler au niveau marseillais. Il y avait quand même autrefois à Marseille un maire d'arrondissement communiste, il y a eu un député communiste, plus rien. Vous êtes donné, alors les sondages, on va être d'accord pour dire que les sondeurs, il faut s'en méfier, mais malgré tout, vous partez sur quelque chose qui tourne entre 7 et 9% selon les premiers sondages. Comment ça s'explique, ce décrochage? Et est-ce que vous pensez être en capacité de rattraper le temps perdu et d'obtenir une audience qui soit autre que marginale dans cette ville?
Non, d'abord, le temps perdu ne se rattrape pas. Et puis, effectivement, c'était pour reconstruire, il faut vraiment, c'est un marathon, c'est un travail de longue haleine. Mais je vous rappelle quand même que, effectivement, et moi, je ne veux pas évincer... Le fait que le Parti communiste a vécu un certain déclin ces 30 dernières années, que le Front de gauche est salutaire pour ce que nous voulons porter comme type de politique, comme valeur, comme y compris le dépassement du capitalisme, etc. Mais qu'on est dans une crise politique qui dépasse très largement le Parti communiste et le Front de gauche, et que aujourd'hui la question qui est posée dans cette crise profonde de la politique, c'est la démocratie qui est posée. C'est complètement la démocratie. Qui dirige aujourd'hui le monde? Qui dirige notre pays? Est-ce véritablement ceux qui ont des mandats? Ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire s'ils en avaient la volonté politique. Mais ils n'ont pas la volonté politique de le faire. Ils veulent éloigner, la preuve par la métropole, ils veulent éloigner encore plus les champs de décision des citoyens. Mais donc, on est dans une crise politique où la démocratie est menacée et où, aujourd'hui, c'est la finance qui décide de tout. Quand je dis la finance, c'est que derrière, il y a quand même des familles. Il y a des hommes et des femmes qui décident, qui sont aux manettes, etc. Est-ce qu'on veut vivre dans ce monde ou est-ce qu'on veut vivre dans un monde où le peuple est véritablement souverain et on lui en donne les moyens? Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau des institutions, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas la volonté politique de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Eh bien, il faudra continuer de mobiliser, de rassembler. C'est ce que veut faire le Front de Gauche. Et je pense que, voilà, c'est une manière de retrouver ce qu'a été le Parti communiste. Voilà.
Il a toujours ce viseur de retrouver un jour...
Ben, en tout cas, communisme, ça signifie quelque chose. Ça signifie des valeurs d'humanisme, ça signifie des valeurs de solidarité, de justice, d'égalité. Oui, c'est vraiment très profond. Et je sais que les Français y sont attachés.
C'est pas très à la mode avec le succès. On donne le FN à 25% dans cette ville.
C'est pas nouveau,
mais c'est bien présent. Vous allez me dire que c'était anecdotique, mais il y a la fameuse Anna Rosso-Roig, ouais. Qui était candidate aux législatives à Marseille pour le Front de Gauche, qui a rejoint le Front National et qui vient de le quitter.
Tu avais offert un GPS.
Non, mais ne me faites pas d'analyse politique à partir de ce cas très particulier où on voit bien qu'elle cherche.
Ça sous-entend quand même qu'il y a une vraie défection dans les rangs des communistes.
Non, mais c'est plus large que cela. Bien sûr que là, vous avez un cas et vous le servez, mais c'est beaucoup plus large que ça, le désarroi.
Le rejet de l'autre, le rejet de étranger entre guillemets de la différence des communautés
ça existe. Pas les valeurs que nous défendons donc si des gens se sont trompés
comment vous expliquez ça, c'est parce que c'est plus facile de trouver un bouc émissaire que de comprendre les mécanismes que vous venez de décrire,
mais c'est quand même bien attisé par ceux qui gouvernent, je le répète, c'est-à-dire pour régner, il faut diviser. Donc, trouvons tout ce qui différencie. Et il n'y a rien de plus facile que ça, de rassembler. C'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Nous, on n'a rien trouvé de mieux que pour rassembler, de mettre l'humain au centre des décisions et des choix politiques.
Alors, l'humain regarde aussi, l'humain, il est citoyen aussi, il regarde aussi la gouvernance, la bonne gouvernance comme la mauvaise gouvernance. Là, c'est bientôt Noël. La Chambre régionale des comptes a sorti des rapports sur les trois collectivités, que ce soit le conseil régional, le conseil général et la mairie de Marseille. Et là, tout le monde en prend pour son grade. Il y a des défauts, des remarques dans les trois institutions. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Je rappelle que les communistes, Front de Gauche, sont également dans les trois institutions. Et participent au pouvoir, vous êtes vice-président de la région.
Eh bien, lors de la séance plénière, vous auriez dû écouter ce qu'a dit mon ami Gérard Piel, président du groupe, où effectivement, nous ne sommes ni de près ni de loin touché par les remarques de la Chambre régionale des comptes.
Alors expliquez, est-ce que ça glisse sur vous comme une peau de dauphin ou
Ça ne glisse pas, ça ne glisse pas. Ça veut dire que ce que nous proposons, y compris en termes de commission de contrôle d'utilisation des fonds publics, etc., que j'avais proposé d'ailleurs et qui a été mis en œuvre, qui ont permis de débusquer un certain nombre d'affaires, ont été utiles, mais qu'il faut aller encore plus loin dans le contrôle et dans la transparence. Mais que je sache, puisqu'on va prendre un sujet bien particulier pour bien montrer sur des actes que nous ne sommes touchés ni de près ni de loin. Quant du temps de Jean-Claude Gaudin qui présidait la région et parfois pendant 6 ans avec le Front National, il y a eu l'octroi d'indemnités pour les groupes, pour le fonctionnement des groupes, et que une fois les remarques, à cette époque-là, la Chambre régionale des comptes, il a fallu rembourser. Le groupe communiste a remboursé toutes les indemnités. Non seulement le Front National, le Parti Socialiste et la droite n'ont pas remboursé, mais ils se sont amnistiés, ils se sont blanchis. Vous verrez donc la différence où elle se situe. Et donc là-dessus, là, je suis tranquille en tant qu'élu, en tant que vice-président. Je suis tranquille, on ne me prendra jamais sur les questions de probité, sur les questions d'honnêteté. Il faut être exemplaire quand on fait de la politique. Et je ne dis pas que c'est uniquement à travers ça, c'est-à-dire à la moralisation de la vie politique, qu'on réhabilitera la politique.
Vous avez eu une discussion avec Michel Vauzelle, qui est le président dans l'institution dans laquelle vous siégez, sur l'attribution de subventions à des associations, vous en avez parlé.
Bien sûr, et nous ne votons pas un certain nombre de subventions quand elles sont attribuées à des associations culturelles, et nous l'avons dit, et nous avons...
Il y en a certaines qui sont culturelles, qui sont tout aussi fantomatiques.
Qui sont déguisées. Et nous ne votons pas ces subventions pour les associations. Après, chacun, nous, on le dit, on souhaite que ces dossiers soient retirés. Quand ils ne sont pas retirés, eh bien, ceux qui votent pour cela et qui maintiennent les rapports, eh bien, assumeront leurs responsabilités devant les gens.
Michel ?
Et quand les conseillers généraux communistes votent systématiquement pour soutenir la politique de Jean-Noël Guérini, est-ce que là, vous n'êtes pas conseiller général, mais est-ce que vous le regrettez Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir comme ça un chèque en blanc, ou ça apparaît comme ça aux yeux de l'opinion ?
En tout cas, mes camarades votent pour des politiques qui sont utiles aux Bucco-Rhodaniens, et donc ne me ferez pas dire ici du mal de mes camarades. Je serai conseiller général, peut-être aurais-je une attitude, mais on aurait en tout cas un débat peut-être différent, je n'en sais rien, en tout cas moi je
mais en tant que tête de liste Front de Gauche pour les municipales à Marseille,
oh, vous dites,
on va finir avec le clientélisme, est-ce que des gens qui sont présidents d'institutions et qui sont mis en examen pour association de malfaiteurs, notamment, parce qu'il y en a d'autres, vous les condamnez ou pas concrètement, Jean-Marc Coppola?
Écoutez, moi,
me dites oui ou non, c'est pas compliqué comme question,
Je ne suis pas juge, monsieur.
Non, mais vous, en tant que citoyen, vous considérez qu'il est normal qu'un président d'institution qui est mis en examen pour association de malfaiteurs continue à siéger au sein de cette institution, en tant que citoyen?
Écoutez, moi, si j'étais
répondez-moi en tant que citoyen.
Si j'étais
Jean-Marc Coppola.
Si j'étais dans ce cas de figure, j'irais me cacher dans un trou de souris. Voilà.
Donc, vous condamnez?
Je pense que ce n'est plus sa place, mais voilà. Ça, après, je ne veux pas faire ni les censeurs ni les juges. Il y a une justice, qu'elle soit lente, cette justice, je le regrette aisément, mais je ne vais pas faire le juge à la place des juges, quand même. Enfin, je veux dire...
Au milieu de votre programme, le citoyen a son opinion à dire, et là, je m'adresse non pas à l'élu, je m'adresse au citoyen. Une situation qui vous révulse, ou est-ce que vous vous dites, finalement, il y a un folklore local, on s'y adapte?
Ce qui me révulse, c'est que la justice ne soit pas assez efficace et assez rapide. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans ce pays et qu'il manque des moyens, justement, pour la justice, comme pour la police, comme pour un certain nombre de choses. Et donc, si aujourd'hui, on est dans cette situation-là et que le gouvernement continue de présenter des budgets, comme ça a été le cas sur la sécurité sociale ou sur l'État, des budgets d'austérité où ces grands services publics continuent d'avoir des budgets qui sont en diminution, je le déplore. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, et donc je déplore, tous les comportements et toutes les pratiques qui touchent à la corruption, qui touchent à tout cela. Mais je ne suis pas juge, donc vous ne me ferez pas dire non plus des choses qui ne sont pas de mon ressort.
Alors, sans parler forcément de corruption, il y a d'autres candidats en campagne qui prennent position.
Qui font du clientélisme, oui.
Oui, il y en a d'autres, effectivement. Il y en a quelques-uns, effectivement. Vous pensez à des gens, précisément.
Vous les connaissez peut-être si bien que moi, sinon mieux que moi.
D'accord.
Ils existent parce que les électrices et les électeurs leur font confiance. Que ensuite, ceux qui manient cette corruption, ce clientélisme, jouent sur l'ignorance, la difficulté, parce que c'est ça aussi, c'est la difficulté, parce qu'il n'y aurait pas de gens pauvres à Marseille. Le clientélisme, il marcherait un peu moins. Mais je préfère, vous voyez, avoir des scores sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais marcher la tête haute dans cette ville et dans ma vie, tout simplement, d'être digne, plutôt que de jouer le clientélisme et la corruption, et puis être élu comme certains le sont d'ailleurs aussi.
Donc parlons clientélisme, pour vous la gouvernance est un des enjeux de cette campagne?
Absolument.
Concernant Marseille?
Alors écoutez, au cœur de notre projet, il y a justement la question de l'intervention citoyenne. Mais pas en termes, vous voyez, on va faire un... Non. Moi, j'ai des propositions très concrètes pour des budgets participatifs, pour des collectifs de concertation, pour l'élaboration des projets.
Par exemple, les comités d'intérêt de quartier, est-ce que vous pensez que cette institution-là ronronne et a été détournée de son sens initial? Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour faire participer les gens?
Je rappelle aux auditeurs que la présidente des CIQ rejoint les listes de Jean-Claude Gaudin pour les prochaines municipales.
C'est pas fait, mais c'est une hypothèse fort probable.
À partir du moment où des collectifs citoyens sont dépendants d'un pouvoir politique quel qu'il soit, tout à l'heure vous faisiez la remarque par rapport à d'autres organisations syndicales ou autres, il y a un couac. Il faut que chacun joue son rôle. Il y a des élus qui vont être élus demain au conseil municipal, et puis il y a des citoyens avec un certain nombre de collectifs. Il faut créer des espaces où les citoyens, justement, puissent accéder aux décisions, ou en tout cas à participer à la construction d'un certain nombre de politiques. Et donc, il faut y mettre des moyens aussi là-dessus. Je vais vous dire une chose. On parle beaucoup de l'éducation en pensant l'école. Bien sûr qu'il faut mettre des moyens sur l'école, en sachant que ça dépend aussi de l'éducation nationale. Mais s'il y a des moyens qu'on peut mettre à l'échelle municipale, c'est sur l'éducation populaire. J'ai été 9 ans présidente du CREPS. Beaucoup pensent que ça veut dire éducation physique. Non, ça veut dire éducation populaire. Et un des premiers actes de la droite en 2002, quand elle est revenue au pouvoir, après la cohabitation avec Jospin et Chirac, ça a été justement de fermer les robinets des associations d'éducation populaire. Parce que l'éducation populaire permet justement aux citoyennes et citoyens d'être instruits, d'être informés et de pouvoir prendre des décisions. Il n'y a pas que ceux qui sont élus, qui sont dans un hémicycle, qui doivent prendre des décisions. Voilà. Et sans passer tous les jours par un référendum, on ne va pas passer toutes les délibérations en référendum.
On va passer à autre chose, Michel.
Les territoriaux, FO, syndicats, forces ouvrières, ils sont souvent pointés comme étant un élément de blocage et dans une logique de co-gouvernance avec les majorités autrefois socialistes, aujourd'hui UMP à Marseille. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire bouger ça? Est-ce qu'il faut remettre en cause ce mécanisme-là?
Faut revenir à des...
Est-ce que vous dites, comme Jean-Claude Gaudin, ils sont élus après tout, et pourquoi pas, c'est légitime, et on ne va pas remettre en cause une organisation syndicale ultra majoritaire.
La position du candidat socialiste Patrick Mennucci, c'est la cogestion avec FO, c'est terminé.
Écoutez, oui, il y a une sorte de cogestion, effectivement. Il faut que chacun reste dans son rôle. Là, il n'y a pas très longtemps, avec Michel Vauzel, nous rencontrions les organisations syndicales de la SNCM. Ils jouent leur rôle. Ils ont des propositions qui sont très justes en même temps, qu'ils peuvent...
Avant d'arriver à la SNCM, FO territoriaux, c'est terminé pour vous, si vous êtes élu demain à Marseille.
Non, c'est pas une question de...
Vous, si vous êtes élu
demain
à Marseille...
Il faudra clarifier les positions des uns et des autres.
Un sujet extrêmement concret.
Pas de cogestion, effectivement.
Un sujet extrêmement concret.
Et pas de confusion des gens.
Le fini parti, les Marseillais en ont ras-le-bol. Personne n'arrive à l'enlever. Patrick Mennucci promet, vous, en tant que candidat, si demain vous êtes élu, il y aura une réforme et ce sera la fin du fini parti.
Il y aura effectivement le fait que les missions de service public devront être mises en œuvre. Ça veut dire respecter aussi les personnels, ça veut dire aussi déprécariser.
Oui, oui. Mais est-ce que c'est la fin du fini parti ou pas?
Eh bien, si ça doit passer par cela, oui, bien sûr, aussi. Mais ça fera partie des discussions qu'il y aura. Mais
vous n'arrivez pas avec dans les bagages cette proposition. J'arrive à la mairie de Marseille,
écoutez,
j'enlève le fini parti qui a fait preuve de son inefficacité.
J'ai été 15 ans syndicaliste, donc j'ai du respect pour les syndicalistes. Et s'il y a un certain nombre de pratiques, il faut regarder tous ceux qui pratiquent cela, c'est-à-dire les élus et puis ceux qui participent à cela. Donc il faut du grand ménage quand même. Le premier ménage quand même à faire, c'est de tourner la page de la droite et de Jean-Claude Gaudin.
D'accord. Alors venons-en à la SNCM, un gros dossier. L'Union européenne demande le remboursement de 440 millions d'euros à l'encontre de la SNCM. Les conditions de privatisation de la SNCM en 2006. Qu'est-ce que vous dites, vous? Tout ça, c'est la faute de l'État qui n'a pas pu venir?
Déjà, il faudrait peut-être tirer le bilan que cette privatisation est un échec, donc c'était pas la meilleure solution. Je sais que le MEDEF dit non, c'est parce que c'est une privatisation partielle, il faudrait la privatiser.
Je rappelle que l'État a 25% dans la SNCM.
C'est une entreprise, moi je veux dire ici à votre micro, que c'est une entreprise viable. Si la délégation de services publics a été votée par la collectivité territoriale Corse et mise en œuvre, ce qui n'est pas encore le cas, c'est 600 millions qui sont assurés pendant 10 ans. Il faut des garanties de l'État et de la Caisse des dépôts et de consignations qui sont à L2 actionnaires majoritaires à 66%, de façon à mettre en œuvre ce qu'a dit le Premier ministre d'ailleurs. Il l'a dit, il faut qu'il mette en œuvre maintenant, il faut qu'il passe aux actes. Un projet industriel, un plan industriel avec la construction de 4 bateaux qui peuvent être faits, y compris en France, au chantier de Saint-Nazaire.
En même temps, les repreneurs disent, on ne viendra, on ne s'intéressera à ce dossier que si l'État s'occupe de cette amende de 440 millions d'euros.
Non, mais l'État s'est occupé pour une fois, l'État s'est occupé en disant à la Commission de Bruxelles, passez votre chemin.
Oui, non, mais ça ne veut rien dire, passez votre chemin.
Si.
Non, les faits sont qu'il y a 440 millions à demander.
Et l'État et le ministre des Transports dit, nous ne payerons pas, et c'est très bien comme cela.
Jean-Marc Coppola, à l'époque, en 2006, vous le saviez que donner des subventions comme ça, ça allait forcément attirer l'œil de l'Union européenne.
Non, mais attendez, avant de venir là-dessus... Oui. Je souhaite dire que quand je dis que l'entreprise est viable, il faut arrêter d'agiter le chiffon rouge parce que derrière, on a dit 3000 emplois, mais c'est des familles. Voilà, c'est des familles qui savent plus si demain ils vont pouvoir continuer de vivre, d'avoir un emploi, etc., etc. Donc vous pouvez pas vous imaginer l'impact social et psychologique de voir dans les journaux tous les jours que c'est en danger, que il y a un risque de liquidation, alors que c'est une entreprise viable et qui fait l'objet de tractations politique ou politicienne. Par contre, je souhaiterais que vous parliez aussi d'une concurrence déloyale, c'est-à-dire de Corsica Ferry, dont les comptes sont loin d'être transparent. Et quand on fera la clarté sur cette compagnie et les moyens financiers de cette compagnie, alors on commencera à regarder aussi ce qui se passe. Parce que je trouve que à la SNCM, depuis cette pseudo-privatisation, privatisation partielle, allez, reprenons des termes rigoureux, eh bien, je trouve
enfin,
que...
La privatisation a quand même donné 17 millions, elle donne 13 millions aujourd'hui.
Je trouve que les personnels et les syndicats ont fait preuve de beaucoup de responsabilité. Ils ont, j'allais dire, y compris participé à ce que cette entreprise marche mieux, et on n'arrête pas de la discréditer, de la discriminer et de la montrer du doigt.
On a publié des enquêtes sur Corsica Ferry dans le Ravi, je tiens
c'est bien,
à le rappeler.
C'est bien, c'est bien. Vous
êtes très critique sur les promesses du Premier ministre vis-à-vis de Marseille, sur les sommes promises, en disant en gros c'est sur 30 ans, ça correspond à rien, il n'y a pas de véritable partenariat Paris-Marseille, État-Marseille, cette affaire. Pour vous, c'est de la poudre aux yeux, la gare Saint-Charles, la rénovation de la gare Saint-Charles, c'est pas les bons choix. Vous êtes pour le métro jusqu'à l'hôpital Nord.
Bien sûr.
Mais en dehors de ça, Il n'y a rien à garder, c'est...
Non, ce que je veux dire, c'est que quand le Premier ministre est venu annoncer plus de 3 milliards, dont 2 milliards et demi sur la gare Saint-Charles, moi je dis simplement aux Marseillais, jugez vous-même. Avec l'élément que j'apporte supplémentaire que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault n'a pas donné, c'est que ces 2 milliards et demi n'interviendront qu'à partir de 2020. Donc quelque part, il ment par omission, puisqu'il ne dit pas que c'est pour l'année prochaine, etc. 2 milliards et demi, mais en même temps c'est cohérent, il ne peut pas avoir une politique d'austérité au niveau national et puis mettre 2 milliards et demi comme ça sur la table pour Marseille pour aider ses camarades socialistes dans la campagne des municipales. Donc ça c'est déjà, il faut rétablir la vérité là-dessus. Mais après, des moyens existent. Et si des moyens existent, y compris ces 2 milliards et demi, je pose la question, est-ce qu'il faut les mettre dans la gare Saint-Charles, dans une gare qui a été rénovée il y a à peine 6 ans, dans laquelle on a mis près de 1 milliard, est-ce que c'est la priorité à Marseille, ou est-ce que la priorité n'est pas justement à développer les métros et le tramway, là où ça n'existe pas, c'est-à-dire dans les quartiers nord, mais aussi dans les quartiers sud aussi. Voilà, je pose cette question, mais les gens trancheront cette question, y compris à travers l'élection municipale.
Autre engagement de l'État, la métropole, et là aussi vous êtes très très sceptique, d'ailleurs, plus que certains de vos camarades, par exemple, vous travaillez avec le vous allez peut-être faire une alliance avec le réseau Le Sursaut. Et eux sont plutôt favorables à une métropole qui ferait bouger les lignes, qui ferait bouger peut-être la gouvernance au niveau de l'échelle départementale. Vous vous dites c'est un gros machin, c'est ça.
La question principale qui est posée, c'est la question de la démocratie de proximité. Et vous pourrez poser la question aux maires, aux conseillers municipaux de toutes les communes. Il y a une majorité de communes dans le département qui sont très défavorables à cela. Et ceux qui croient que parce qu'on va mettre une métropole, eh bien, il y aura plus de moyens, on va régler tous les problèmes qui existent aujourd'hui. Et prenons la question des transports. J'ai posé la question à Maryse Lebranchu clairement lorsque nous avions eu une audience avec Pierre Laurent et Pierre Daréville au ministère, puisqu'elle me prenait à chaque fois la question des transports. Alors vous dites que la métropole va régler la question des transports où il y a un retard colossal dans ce département et même dans cette région. Combien l'État est prêt à mettre là-dessus? J'attends encore la réponse. Donc ce n'est pas une institution de plus à ce qui existe qui va régler ce problème.
Mais ces intercommunalités qui se font la guerre, ex-Marseille, qui n'arrivent pas à s'entendre pour faire rouler
et
un
alors
train.
C'est une institution de plus qui va régler la,
est-ce,
les
est-ce
choses
qu'il faut, est-ce qu'il faut le statu quo? Est-ce qu'il faut garder...
Mais non, il suffit simplement d'avoir la volonté de mettre tout le monde autour de la table. Et ça, on est capable de le faire s'il y a un projet commun. Et sur la question des développements des transports la complémentarité des transports,
question directe,
on peut le faire avec les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui.
Question directe, vous pourriez être pour la métropole, sachant que les maires communistes de Martigues, Durove, d'Aubagne...
Je trouve que la métropole... Non, je ne suis pas pour la métropole, je suis contre la métropole.
Voilà, donc, vous pourriez être pour, sachant que les principaux maires communistes du département sont contre.
Non, ce n'est pas parce que... Ils sont contre que je suis contre, c'est parce que ce qui nous guide, c'est le fondamental, c'est-à-dire la métropole, c'est un éloignement des centres de décision des citoyens et donc un recul dans la démocratie de proximité, ce qui est grave pour justement la démocratie dans notre pays.
Dernière question, Jean-Marc Coppola. Il y a quelques jours, Michel Vauzelle, président de la région PACA, député, vient de se faire élire à la tête d'Euromed pour 6 mois. Vous dites quoi? Arnaque gouvernementale?
Je pense d'abord que le gouvernement était très méprisant parce que j'ai posé ma candidature. Je n'ai même pas eu l'once d'une réponse en disant oui, on peut l'étudier ou on ne l'étudie pas pour telle et telle raison. J'ai eu aucune réponse. Il n'y a pas eu de débat parce que moi, c'était pour provoquer
le
débat.
Mais l'élection de Vauzelle, c'est une arnaque selon vous?
Écoutez, quand on se fait élire...
Un coup politique?
Être atteint par la limite d'âge des
quand
des,
on se fait,
au 2014.
Quand on se fait élire, effectivement... dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, bon, on réfléchit à deux fois, mais je ne connais pas sa motivation, être à la tête de Rome Méditerranée, alors que c'est un outil qui est perçu par beaucoup de Marseillais comme une machine à exclusion, alors que ça peut être au contraire un outil public qui peut être utile, justement, à raccommoder
Marseille. C'est juste de l'interrogation ou il y a un petit peu de colère quand même sur le...
Oh, je vois pas de colère.
La machination...
Mais le mépris du gouvernement à mon égard, c'est du mépris à l'égard de ceux que je représente et à la guerre de beaucoup de Marseillaises et Marseillais.
C'était Jean-Marc Coppola, tête de liste Front de Gauche pour les prochaines municipales à Marseille. On se retrouve le mois prochain. Bye. 13...